RCF.
À partir du XVe siècle, François Bellec, les Portugais sont les meilleurs navigateurs, disons. Ils dominent les océans et les mers. D'où vient cette compétence particulière, ce savoir-faire? Est-ce qu'elle s'explique par des raisons, disons, techniques? Est-ce qu'ils maîtrisent parfaitement bien la navigation? Ou bien il y a d'autres raisons et d'autres motivations qui les poussent?
Mais ça, c'est la grande question des découvertes. En fait, le Portugal a inventé la navigation occidentale. C'est le Portugal qui a fait tout le travail des découvertes. Et on verra plus tard que Christophe Colomb ou Magellan n'ont été que des alternatives à cette grande invention de la mer. C'est les Portugais qui ont ouvert l'Atlantique véritablement. Alors, ça a commencé un peu accidentellement. En fait, le Portugal n'était pas du tout un pays maritime, par rapport à Venise et ses galères marchandes, par rapport aux bateaux de la Ligue hanséatique qui avaient inventé un caboteur formidable, la cogue hanséatique qui faisait un cabotage intense. Le Portugal, c'est un petit pays de pêcheurs, 1 million d'habitants, un tout petit pays.
Et dont la côte est exclusivement tournée vers l'Atlantique, vers cette mer des ténèbres d'ailleurs.
Je dirais un peu entre l'Atlantique et les Pyrénées. Alors donc, le Portugal commence accidentellement parce que les enfants demandent en 1414 à leur père, Jean Ier, d'organiser une petite croisade à Ceuta, une petite ville marocaine sur la côte sud du détroit de Gibraltar, pour leur entrer en chevalerie. Le roi dit, mes enfants, vous n'y pensez pas, cette ville est si lointaine. Le Portugal considère que le Maroc, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, qui voit tous les jours, de l'Algarve, on voit la côte marocaine, considère que c'est tellement loin que c'était inenvisageable. On prépare une flotte pendant un an, la traversée par d'Algésira. Ça dure plusieurs jours, c'est une catastrophe maritime. Ça, les bateaux sont emportés par les courants, ont du mal à se regrouper, donc les Portugais ne savent vraiment pas naviguer. Mais le 21 août 1415, Ceuta tombe et la mosquée de Ceuta est transformée en église. Et à partir de là, le Portugal s'aperçoit d'un coup que, ça y est, l'Afrique, ils ont pris pied. Et du coup, vient l'idée de faire le tour de l'Afrique pour contourner le monopole de Venise, et rejoindre le fameux prêtre Jean, qui est un prêtre mythique, un souverain chrétien, qui a une armée, qui est du côté de l'Abyssinie, et l'idée de rejoindre le prêtre Jean, c'est de prendre l'islam à revers. Alors, d'après les connaissances de l'époque, la géographie de Ptolémée donnerait l'impression qu'on peut pas faire le tour de l'Afrique, mais il y a une autre série de cartes qui est née, j'appelle ça les cosmographies, ça apparaît dans les années 1430. C'est inspiré manifestement d'une cartographie arabe, mais ça donne l'impression d'une Afrique parfaitement contournable, mais qui serait, je dirais, pratiquement limitée au golfe de Guinée, quoi. C'est-à-dire l'Afrique, ça paraît pas très loin. Et les Portugais se disent qu'on va faire le tour de l'Afrique avec leurs bateaux, les petits bateaux, des barcaches, des barinés, les petits bateaux à voile et à aviron. Ils n'ont pas du tout l'intention de faire de la haute mer. Le seul problème qui se pose, c'est de faire franchir ce Cap Bojador.
Et cette fameuse mer des ténèbres.
Voilà, la mer des ténèbres. Alors, 15 tentatives, 15 échecs. Les jeunes nobles, les jeunes fidalgos qui y vont, reviennent en disant qu'ils n'ont pas, ils osent pas. Comme le mur du Fion. Hein. Le mur du Fion, le premier qui l'a franchi, il fallait savoir si ça passait ou ça passait pas.
C'est qu'ils n'osent pas y aller.
Ils n'osent pas y aller. D'accord. Parce que c'est pas qu'ils ont peur, il se passe rien de particulier. Le Cap Bojador, c'est pas terrible, c'est pas impressionnant. Mais ils ont la peur d'un véritable suicide. Puisqu'on sait que c'est mortel, si on franchit, on se suicide. Donc c'est Gilles et Annès qui, en 1433, a l'idée géniale de partir très loin. Il s'éloigne du rivage, puis il revient tout doucement vers la côte. Ils se regardaient tous là mutuellement pour voir s'ils ne devenaient pas noirs. Puis il s'aperçoit qu'il touche terre, il ne se passe rien. La plage, c'est exactement comme celle du Maroc. Et il cueille quelques roses de Jéricho comme preuve, et puis il revient à toute vitesse dire à l'enfant, on a franchi Bojador. Et l'année suivante, on envoie un autre bateau avec deux jeunes nobles qui, à cheval et en armure, vont explorer le pays. C'est véritablement l'exploration de la Lune. Nous sommes là, mutatis mutandis, dans l'exploration de la Lune. Alors, à partir du moment où le cap est passé,
tout est possible.
Tout est possible. Les Portugais s'aperçoivent que finalement, c'est beaucoup plus long que prévu. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont mettre 83 ans avant d'arriver au bout. Ils sont gênés par...
Attendez, c'est plus long que prévu de faire le tour de l'Afrique.
Oui, parce que l'Afrique est beaucoup plus grande que on s'y attendait pas.
Et
donc, de petit progrès en petit progrès, d'année en année, on va un peu plus loin. Et bien, il va falloir 83 ans pour faire le tour de l'Afrique. Alors qu'est-ce qui amène les Portugais en haute mer? C'est simplement le fait qu'ils sont gênés par les alizés du nord-est quand ils reviennent vers Lagos, parce que ça part de Lagos. L'infant Henri s'est installé, il est gouverneur de l'Algarve et c'est de Lagos que tout part. Ils imaginent, au lieu de tirer des bords, c'est-à-dire de zigzaguer contre le vent, de faire un large bord vers les Açores et de revenir vent arrière. Ils ont découvert les vents d'ouest, ils ont découvert le régime des vents, venir vent arrière vers le Portugal. Ils sont obligés de quitter la terre de vue, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Ils vont utiliser la carte Portulan qui est née à la fin du XIIIe siècle, qui est la première carte marine destinée à des navigateurs, adaptée à une navigation par la boussole, qui existe en Méditerranée, qui n'est pas utilisée. Ils se mettent à l'utiliser, c'est les premiers à naviguer vraiment à l'estime en haute mer. Et puis ils font comme les Arabes, ils découvrent que plus on descend vers l'équateur et plus l'étoile polaire descend sur l'horizon. Ils inventent la mesure de la latitude par l'étoile polaire. Et quand ils perdent l'étoile polaire de vue en franchissant l'équateur, ils mettent au point des tables de déclinaison du soleil. Et grâce à la hauteur du soleil méridien additionnée ou soustraite, suivant les cas, de la déclinaison du soleil, on a la latitude. Et cette fois-ci, les Portugais ont inventé un système universel. Les étoiles, ça change autour de la Terre, suivant la latitude à laquelle on est et suivant l'endroit où on se trouve. Le ciel n'est pas le même. Là, ils découvrent un moyen de naviguer universellement en des terres inconnues. Grâce à la carte Portulan, à la boussole et au soleil méridien, les Portugais vont pouvoir découvrir le monde.
Donc ils ont une longueur d'avance considérable là.
Alors c'est eux qui apprennent tout et tous les peuples européens. D'abord les Espagnols dans leur foulée. Puis les Anglais, les Hollandais au XVIIe siècle, les Français, tout le monde. La navigation universelle sera déduite des inventions portugaises.
Avant qu'ils ne traversent l'Atlantique, ils naviguent donc, ils contournent l'Afrique.
Ils contournent l'Afrique, mais ensuite, ayant découvert que les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'Atlantique Nord et dans le sens inverse dans l'Atlantique Sud, ils inventent la grande option météorologique qu'utilisent encore les navigateurs quand ils partent faire des grandes courses autour du monde. Ils utilisent les routes portugaises. Ça consiste à descendre jusqu'au Brésil en suivant les alizés pour attraper les vents d'ouest à l'altitude du Cap de Bonne-Espérance pour revenir sur l'océan Indien. Alors le Cap de Bonne-Espérance est découvert en 1488 par Bartolomeo Dias. Et là, Jean II du Portugal, qui est un roi sage, dit « Mais j'ai peur que le pays est trop petit pour qu'on aille si loin, ça va faire de l'inflation, ça va disperser nos forces et je pense qu'il faudrait que l'on attende. » Ils attendent 10 ans et c'est finalement Manuel Ier qui décide de prendre la suite de ses prédécesseurs et de terminer le tour de l'Afrique. Et 1498, Vasco de Gama arrive en Inde. Et c'est là que le Zamorim lui dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ? Nous sommes venus faire des chrétiens et chercher des épices. »
Alors là, on a parlé des Portugais. Est-ce qu'à l'autre bout du monde, les Chinois, par exemple, dont vous nous disiez au tout début qu'ils étaient parmi les précurseurs, progressent aussi la navigation ?
Non, parce que les Chinois ont lancé 7 voyages d'exploration de l'océan Indien, de la mer de Chine, entre 1405 et 1433. Ce sont les expéditions de l'amiral Shengre qui ont été voulues par un empereur qui voulait aller voir s'il y avait quelque chose d'intéressant derrière les contrées barbares. Ils ont considéré qu'il n'y avait rien à voir, que c'était pas intéressant, que les populations étaient sans intérêt, que ça coûtait très cher et que finalement il fallait arrêter tout. Et en 1433, l'empereur successif décide que on arrête la navigation en haute mer. Et on punit de mort la construction des navires de haute mer. Et la Chine se replie à l'abri derrière la Grande Muraille et assèche complètement cette science de la mer qu'elle détenait.
Alors qu'en parallèle, donc, les Portugais, eux, progressent à vitesse grand V et ouvrent de nouvelles voies,
oui,
du coup.
Tout en étouffant la science arabe. C'est le blocus de la navigation arabe. Les Arabes perdent leur monopole de la navigation de l'océan Indien, sont coupés des découvertes, la cartographie arabe s'arrête, et finalement, les deux précurseurs qui ont été les Arabes et les Chinois ont disparu de la circulation au moment où les Portugais, eux, commencent leur navigation expansionniste.
Alors cette navigation expansionniste, au début, elle est effectuée uniquement à titre expérimental ou très vite elle est exploitée, notamment pour de nouvelles formes de commerce et accéder à des endroits qui viennent d'être découverts.
Ben, elle est tout de suite utilisée pour ce qui a été autorisé, puisque le pape Eugène IV a donné en 1435 au Portugal le droit de conquérir des peuples et de faire du commerce et de les exploiter sous réserve de les évangéliser à partir des Canaries. La Libye, au nord des Canaries, c'est le roi d'Espagne qui est chargé de ça. C'est le principe de la plenitudo potestatis qui autorise le pape à répartir le monde entre les souverains chrétiens pour répartir l'évangélisation.
Donc les Espagnols au nord.
Au nord des Canaries.
Et au sud.
Et au sud, les Portugais. Alors ça va changer lorsque Colomb a découvert autre chose dans l'ouest.
Et ça sera transposé à l'Amérique,
on va changer à ce moment-là. Ça sera Alexandre VI qui transforme ce partage du monde horizontal en partage vertical. C'est pour ça que le Brésil est portugais, parce que la ligne du traité de Tordesillas traverse le Brésil. L'Amérique du Sud est espagnole et le Brésil est portugais. Le monde est partagé à ce moment-là dans les deux sens et toute l'Asie appartient au Portugal.
Et c'est le pape donc qui en décide.
C'est le pape qui fait ça et s'est entériné ensuite par le traité de Tordesillas en 1494 qui va entériner ça.
Merci beaucoup, à demain Georges Bellec.